affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Connaissez-vous Pierre-Jean Mariette ? La question est d'importance. En 1967, l'historien d'art Henri Frémégier considérait même que l'humanité se divisait en deux blocs. Ceux qui avaient vu l'exposition consacrée cette année-là à Mariette et ceux qui ne l'avaient pas vue. De la sorte, il voulait bien sûr souligner la place éminente qu'est celle de Pierre-Jean Mariette dans l'histoire de l'art et dans celle du collectionnisme. Né à Paris en 1694, Pierre-Jean Mariette fut tout à la fois graveur, libraire, historien et marchand d'art, mais il est surtout passé à la postérité pour l'extraordinaire collection de dessins qu'il a constitué tout au long de sa vie. Pensez donc, près de 10 000 dessins, parmi lesquels des œuvres de Raphaël, Michel-Ange, Titien, Véronèse. Pierre-Jean Mariette mérite donc d'être connu et sa collection d'être découverte ou redécouverte. Et fort heureusement, c'est aujourd'hui possible. C'est possible grâce aux efforts déployés par Pierre Rosenberg de l'Académie française, ancien directeur du Louvre et président de l'association Mariette pour la promotion du dessin français, une association qui, depuis 2005, œuvre à publier le catalogue raisonné de sa collection. Un travail désormais bien avancé, puisqu'après le premier volume, consacré aux dessins de l'école française, un second vient de voir le jour, consacré aux écoles italiennes et espagnoles. Tandis qu'une exposition pilotée par Pierre Rosenberg présente au Louvre une sélection de dessins italiens. C'est jusqu'au 30 septembre. Si donc, chers auditeurs, vous faisiez encore partie du bloc de ceux qui ne connaissaient pas Pierre-Jean Mariette, cette émission va vous donner les clés pour y remédier. Nous avons en effet la joie et l'honneur de recevoir dans notre studio Pierre Rosenberg. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Nous allons mener donc une émission d'introduction au trésor de la collection Mariette et je précise qu'exceptionnellement, je serai assisté dans cet entretien avec Pierre Rosenberg par Alix Laurent Bellu, qui est spécialiste de tableaux et de dessins anciens dans une maison de vente qui exerce à Drouot. Alix, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Monsieur Rosenberg.
La première chose que je voudrais dire, c'est que en introduction, c'est que je suis en effet à la retraite comme directeur du Louvre, mais comme président directeur du Louvre. Et c'est assez important parce que le Louvre a à sa tête, à l'exception de ce qui est une exception parmi les grandes maisons, à la fois non pas un président et un directeur, mais un président-directeur qui a la double responsabilité donc du Louvre dans sa gestion de tous les jours et du Louvre de demain. Et j'espère que mes successeurs arriveront à maintenir ce statut assez particulier, mais qui paraît absolument essentiel pour le Louvre. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que 1967, en effet, c'est une exposition extraordinaire qui avait été faite à ce moment-là par la patronne du cabinet des dessins de l'époque, on ne parlait pas encore de département des arts graphiques, qui s'appelait Rosine Bacou, et qui vraiment a fait, pour la date, un catalogue exemplaire d'une variété d'approches, d'une intelligence quant à la personnalité Pierre-Jean Mariette, extraordinaire. Car si vous voulez, l'homme, évidemment, il a voulu survivre. Il a voulu survivre par sa collection de dessins, dans laquelle il a mis tous ses efforts. Et il a voulu aussi, évidemment, à tout prix marquer les dessins par sa personnalité. C'est pour d'où ces montages qui sont si particuliers, cette marque de collection. Pour lui, le dessin, c'était bien sûr une œuvre d'art qu'il avait choisie avec attention, avec intérêt, avec amour. Mais c'était aussi une œuvre qu'il fallait valoriser. Donc il est assez particulier comme personnalité, il est très attachant. Alors il est d'origine modeste, évidemment, il est fils de marchand d'estampes, et il a une volonté de promotion sociale chez lui qui est claire. Et en effet, il est élu à un certain moment à l'Académie royale de peinture et de sculpture, mais quand il est élu, il doit vendre sa maison de dessin, de gravure et de gravure, car il ne peut pas, en tant que membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, à la fois être marchand. Et donc il y a une promotion sociale qui, chez lui, très intéressante à étudier, comment fils d'artisan, fils de devenir un bourgeois reconnu.
Alors précisément, vous avez évoqué son rapport à la collection. J'ai lu sous votre plume qu'il avait une place spécifique dans l'histoire de la collection.
Oui, il a une place tout à fait particulière parce que si vous voulez, des collectionneurs de dessins, il en existe depuis très longtemps. Vasari, bien sûr, est l'exemple qu'on cite toujours. Il y a eu, bien sûr, d'autres grands collectionneurs. Pierre-Jean Mariette, d'abord, est un érudit. C'est à la fois un savant et un collectionneur. Et pour lui, le dessin est à la fois un objet d'amour, mais aussi un objet de connaissance. Et il a fait ses preuves avec la vente de Crozat, qui était le Pierre Crozat, qui était l'un des hommes les plus riches de France, on disait le deuxième plus riche de France à l'époque, qui avait constitué une collection de dessins extraordinaire que Mariette, à la mort de Crozat en 1741, a catalogué. Et ce catalogue est le premier catalogue moderne. C'est le premier catalogue moderne, je veux dire, comme les catalogues que vous connaissez tous de Drouot, de Sotheby ou de Christie, où les œuvres sont classées alphabétiquement, ils sont classés, bon, parfois on divise les écoles, mais c'est chronologique. Et le catalogue Crozat est le premier catalogue dans l'histoire du dessin qui soit véritablement un catalogue comme ceux que nous avons l'habitude encore aujourd'hui de consulter quand il y a des ventes.
Mais d'ailleurs, il avait, j'ai cru comprendre, il accordait énormément d'importance à la provenance d'où venaient les œuvres, les étudier. Est-ce que c'était nouveau pour cette époque de s'attacher à cette espèce?
Il y accordait beaucoup d'importance. Et d'ailleurs, ces dessins qui sont très particuliers parce qu'ils sont montés avec ces grands montages bleus avec bandes dorées. Mais il y a des cartouches en bas des dessins qui donnent le nom de l'auteur du dessin. Parfois, d'ailleurs, Mariette s'est trompée, bien entendu. Il donne le nom de l'artiste, mais il dit aussi à qui le dessin a appartenu avant lui. Il est très fier de posséder des dessins qui avaient appartenu à Vasari, qui quand même est le premier grand collectionneur de dessins, artiste collectionneur de dessins. Et aussi d'autres collections, Sir Peter Lely en Angleterre, d'autres grandes Crozat naturellement. Et la provenance a une grande importance pour lui. C'est-à-dire qu'il a un comportement vis-à-vis du dessin qui est un comportement à la fois de savant, comme le sont les conservateurs de dessin des cabinets de dessin actuels, et d'amateurs et de collectionneurs. Il a cette particularité de s'approcher du dessin en amateur, en connaisseur, en collectionneur et en savant. Et c'est très particulier, évidemment. Lui-même attachait beaucoup d'importance à sa collection de dessins. Il aurait souhaité qu'à sa mort, elle entre dans les collections royales. Ses enfants, qu'il n'aimait pas beaucoup et qui ne l'aimaient pas beaucoup non plus, d'ailleurs, je crois, ont préféré tenter la chance d'une vente, à laquelle, heureusement, le roi a pu acheter beaucoup de dessins, dont maintenant une grande partie, enfin, qui sont au Louvre et dont une partie est exposée dans les salles, au Louvre, au musée du Louvre, jusqu'à la rentrée. Donc, si vous voulez, ses héritiers ont eu tort de vouloir faire cette vente, car le prix qu'offrait le roi, le jeune Louis XVI, pour acheter l'ensemble de la collection, était plus élevé que le prix qu'a atteint la vente. Alors, ils ont eu un peu tort.
Et est-ce qu'on sait d'ailleurs quels ont été, comment est-ce qu'ils ont fait de la sélection? Je crois qu'ils ont acquis 1000 dessins.
À peu près, oui, c'est ça.
Beaucoup d'Italiens d'ailleurs.
Beaucoup d'Italiens, et parmi les plus grands, ils ont très bien acheté. Ils ont très très bien acheté. Ils ont fait une sélection très sérieuse. Il y avait un petit problème qu'ils ont tout de suite compris, c'est qu'on savait, je ne sais pas très bien comment, et on se doutait des dessins qui intéressaient le roi. Évidemment, comme c'est encore le cas aujourd'hui dans les ventes, on les a poussés, ces dessins. C'est-à-dire qu'on en a voulu que le roi les paye le plus cher possible. Alors, pour éviter cet écueil, pour les payer pas trop cher, ils avaient des hommes de paille. Des hommes de paille qui se cachaient dans la salle, dont on ne savait pas très bien ce qu'ils faisaient là, et qui, on espérait par ce biais, ne pas être, comme on dit maintenant, l'hôtel Drouot, vous savez ça mieux que moi, et pour ne pas être bourré. C'est le mot. Et ça n'a pas toujours réussi, parce que les hommes de paille, très vite, ils ont été démasqués aussi. Donc le roi a payé cher les dessins qu'il voulait. Pas toujours, mais souvent. Alors, si vous voulez, le problème que la collection Mariette, pour nous, bien sûr, c'est que cette collection a été vendue. Et qu'il y a les dessins qui ont été achetés par le roi et dont on peut espérer les retrouver au cabinet des dessins du Louvre. Mais il y en a beaucoup, la grande majorité, l'immense majorité, qui sont maintenant dispersés. Et ils sont dispersés un peu partout. Ils sont dispersés un peu partout. Il y en a à Honolulu, il y en a au Cap. Il y a des dessins qui sont allés s'égarer dans des endroits. Il faut les retrouver.
Alors justement, le travail que vous avez accompli avec le soutien de l'association Mariette pour la promotion du dessin français, oui. C'est un travail titanesque, puisque
titanesque.
Il y a de l'ordre de 8000 dessins qui sont dans la nature.
C'est exactement ça, c'est titanesque, c'est pour ça que j'ai été aidé pour les Français comme pour les Italiens par trois demoiselles, trois dames d'ailleurs, surtout les trois mariées, qui sans elles, je n'aurais jamais pu mener à bien ce travail. Laure Barthélémy, je les appelle par leur prénom Marie-Liesse Delcroix, je crois, et puis une Italienne très sympathique, et chacune a eu son petit morceau, chacune a eu son travail propre, et en effet, parce qu'il faut les retrouver, ces dessins, une fois qu'on les a retrouvés, il faut évidemment s'occuper d'en obtenir une bonne photographie, connaître la bibliographie, etc., etc. C'est un énorme travail, un travail d'équipe, il faut bien le dire, de même qu'il faut que je parle de Victor, dont le nom est trop difficile pour moi à prononcer, qui est responsable de l'exposition du Louvre, et qui a fait un merveilleux travail. L'exposition est très belle, surtout parce que les dessins sont encadrés magnifiquement de cadres anciens. Oui, donc il faut les retrouver, ces dessins. Et comment est-ce qu'on les retrouve? Alors voilà. Alors il y a la première chose qui est le plus simple, c'est le cachet. Il y a un petit thème, en fait, qui est un PJ mêlé. Un petit thème, c'est dans un cercle. Et ça, c'est le point de départ numéro un. Quand on voit un dessin avec ce petit thème, puis dans un cercle, on peut se dire qu'il y a des... Il y a quelques dessins, il y a des fausses marques Mariette, mais enfin, en gros, ça veut dire qu'ils viennent de chez Mariette. Mais c'est pas aussi simple parce que tous les dessins ne portent pas la marque. Alors, il y a le montage dont je vous parlais tout à l'heure, le beau montage bleu à bande dorée.
Le fameux montage bleu.
Et qui est un montage assez compliqué parce qu'il a vraiment voulu valoriser le dessin. Il y a tout un jeu des lignes dorées qui permet justement de le valoriser au maximum. Et puis, il y a un instrument de travail qui a été extrêmement précieux. C'est qu'il y avait un fou de dessin, un personnage extraordinaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gabriel de Saint-Aubin. Les Goncourt disaient qu'il avait un priapisme du dessin. Ça veut dire qu'il dessinait. Et lui, il était à la vente. Il était à la vente. Et il a suivi la vente à peu près tous les jours. Et il a dessiné en marge de son exemplaire, très vite, tous les dessins qu'il voyait. Pas tous, hélas. Beaucoup de dessins qu'il voyait. Et ces petits dessins de Gabriel de Saint-Aubin sont d'une utilité immense parce que, avec une précision et une acuité du regard, en quelques traits, en un certain sens, c'est comme s'il les avait photographiés.
Parce que... Oui, vous en reproduisez un certain nombre, en tout cas, parce que je me souviens de ceci, dans le volume consacré aux dessins français.
Dans les Italiens aussi.
Les Italiens, j'imagine. Donc,
oui. Les petits dessins de Saint-Aubin sont... Alors, si vous voulez, on a comme ça différentes pistes, différents moyens qui permettent de reconstituer cette collection, parce que c'était ça notre but. C'était de reconstituer la collection. D'abord les Français, comme vous avez dit, puis les Italiens, et maintenant nous sommes déjà attaqués aux Flamands, aux Hollandais et Allemands. Et ce sera plus rapide parce qu'il y en avait beaucoup moins.
Oui, parce que donc il avait une prédilection pour les Italiens. Alors quel était justement le critère? Tout collectionneur, j'imagine, a des marottes, des préférences. Et se fixe des règles, parce que sinon, une collection n'est plus une collection. Ça n'a pas de limite et de frontières, ça n'en est plus une. Quels étaient les critères?
À mon avis, il y avait plusieurs critères chez lui. D'abord, il y avait le goût profond pour le dessin italien et surtout pour le dessin du XVIe, comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire Raphaël, Michel-Ange, les grands noms. C'était ceux-là qu'on ne pouvait pas ne pas collectionner. Mais il avait une autre ambition, parallèle à celle du chef-d'œuvre. Cette autre ambition, c'était de constituer une histoire du dessin. Et il a collectionné, à l'époque, des dessins d'artistes qui, à l'époque, étaient complètement ignorés. Il s'intéressait à Giotto, il s'intéressait aux dessins très tôt. Et il voulait, à travers sa collection, et à travers les écrits aussi qui accompagnaient sa collection, il voulait raconter l'histoire du dessin dans tous les pays. Alors naturellement, Rubens, Rembrandt, tout le monde. Il voulait raconter une histoire des dessins et montrer par là la diversité des dessinateurs. Il voulait donc voilà, il a eu la main très heureuse pour tout ce qui était 16e. Ça, c'est vraiment le cœur de sa collection, c'est ce qu'il aimait, c'est ce qu'il connaissait le mieux, c'est là où il s'est le moins trompé. Il était moins heureux pour les contemporains. Pour les contemporains français notamment. Oui, il avait cette passion absolue pour Bouchardon, qui était considéré comme le plus grand dessinateur, qui est un grand dessinateur, mais enfin, c'est pas Boucher. Voilà.
Ça manque d'émotion.
Ça manque d'émotion, c'est tout à fait vrai. Et puis pour l'Italie 18e, il n'a pas eu la main très heureuse non plus. Il n'a pas compris Tiepolo, bien clairement. Et donc, mais ça, c'est comme tous les collectionneurs. Aujourd'hui, il y a d'excellents collectionneurs de peinture contemporaine qui sont aveugles pour la peinture ancienne et vice-versa. Donc, il a un comportement, au fond, très humain de collectionneur qui
avec ses failles.
Avec ses failles. Oui, oui.
Ça donne du relief, les failles aussi, dans une collection. Donc.
Oui, oui, oui. Mais c'est très. Oui, oui. Mais il y a un goût Mariette, incontestablement. Un goût Mariette, il aimait beaucoup les dessins finis, beaucoup plus que nous. Il aimait bien les dessins très composés. Et naturellement, il était très sensible à des dessins qui étaient en relation avec des œuvres peintes. Parce que ça, c'est quand même. C'est pour certifier d'une attribution, c'est quand même utile.
Et, mais c'est là où on voit son côté savant, alors. Parce que là,
oui, oui. C'était un savant. C'était aussi un savant. Un grand travailleur, parce que sa collection lui prenait beaucoup de temps. Il avait sans doute des gens qui, autour de lui, les montaient les dessins, etc., etc. Mais il a par ailleurs écrit énormément. Il a écrit énormément sur des sujets les plus variés, les antiquités romaines du sud de la France. Donc.
Oui, parce que c'est peut-être un point qu'il faut préciser, c'est que là, nous parlons de sa collection de dessins. Mais en réalité, c'est un esprit curieux de tout,
oui,
et qui s'est intéressé également aux pierres gravées.
Aux pierres gravées, tout à fait. Ouais. Évidemment, la collection d'estampes qui est gigantesque, on ne sait pas très bien dans cette collection d'estampes ce qui lui revient et ce qu'il a hérité. Parce que si vous voulez, le stock Mariette, papa, grand-père, devait être énorme. C'était quand même le plus grand marchand d'estampes aux colonnes d'Hercule, rue Saint-Jacques, la maison existe toujours. Pas loin du Panthéon. Et c'était évidemment le grand marchand d'estampes de son temps, son père et son grand-père.
Est-ce que vous me permettez de lire une courte citation, oui, de Pierre-Jean Mariette, qui figure bien sûr dans l'un de vos ouvrages, je n'ai pas trouvé tout seul, et qui, dans lequel il parle des critères qu'il utilise pour et de ses engouements. Citation donc de Pierre-Jean Mariette. « On compte des curieux qui, comme moi, donnent la préférence aux ouvrages des maîtres italiens sur ceux des peintres qu'ont produit les Pays-Bas. Ceux-ci ont pris un tel crédit qu'on se les arrache et qu'on y prodigue l'or et l'argent, tandis qu'un tableau ou un dessin d'Italie n'est regardé qu'avec une sorte d'indifférence. Cela ne m'empêche pas de suivre mon goût. »
Oui, oui, c'est une citation très, très intéressante, car en effet, à l'époque où il écrit, le marché parisien, qui était le marché de loin le plus important pour les dessins et les tableaux, de loin le plus important, était en train de s'orienter vers la peinture hollandaise. C'était la peinture hollandaise qui était devenue très chère. Et tous les tableaux hollandais presque tous les tableaux qu'on voit dans les musées ou qui passent en vente sont passés par la France au XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement pour cette peinture, un peu au détriment de la peinture italienne à l'époque. Et cette phrase le reflète. Et lui, c'est à cause de sa génération, à cause de son âge et à cause de tout cela, il reste attaché à l'Italie. Il a raison d'ailleurs, qu'il considère comme la mère des arts.
Et est-ce qu'il a d'ailleurs aidé à la redécouverte de certains peintres, à l'appréciation, même parmi ses contemporains
C'est difficile de répondre. L'Italie. C'est difficile de répondre. C'était un homme pas très agréable de rapport. Il n'aimait pas montrer sa collection, par exemple. Il n'aimait pas beaucoup montrer sa collection, il en était très fier. Et il a soutenu certains artistes, évidemment, Bouchardon, c'était sa passion. Mais en gros, autant il avait des relations avec le monde du dessin dans tous les pays du monde, y compris en Italie, il y a une grande correspondance avec les... Autant, ici en France, à Paris, on a l'impression qu'il se mettait à l'abri. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup aidé les artistes, ses contemporains. Je ne suis pas sûr. Et non, je crois qu'il était un petit peu... Il y a des anecdotes célèbres où il refuse, en effet, de montrer sa collection d'estampes à des érudits de l'époque qui veulent faire le catalogue. Donc l'homme, je ne suis pas sûr qu'il était très sympathique. Mais enfin, ce n'est pas la question.
Dans son élan pour l'art, comment explique-t-on, à quel moment situe-t-on dans l'histoire de l'art pour que, comment explique-t-on que les articles nordiques, les artistes nordiques sont plus appréciés que les Italiens?
Mais c'est un changement de goût, c'est classique, si vous voulez, on voit bien que Nos goûts ne sont pas ceux de nos parents et de nos grands-parents. Vermeer est une découverte récente de l'histoire de l'art, Georges Latour aussi. L'extraordinaire engouement dont on a eu des échos en grand nombre ces dernières semaines pour Caravage est un phénomène tout nouveau. L'histoire de l'art est une science qui progresse, ou du moins qui évolue, et nous avons des goûts qui évoluent. Il y a des artistes, si vous voulez, j'étais donc à Londres hier et avant-hier, j'ai vu l'exposition Vallotton, un immense artiste, Vallotton, qui a été réhabilité, qui est en cours de réhabilitation. La place de Vallotton dans l'histoire de la peinture du XXe siècle, elle est en train simplement, sous nos yeux, de prendre place. Enfin, elle est en train, Vallotton, il y a 10 ans, et ceci dit, on voit tout à fait maintenant qu'il est artiste archi à la mode et les salles de vente l'ont bien compris. Donc, si vous voulez, le goût évolue. Mariette avait un goût, disons-le, réactionnaire ou académique. Et en effet, cette phrase que vous citiez prend en compte cette évolution du goût vers la peinture nordique qui a été... Et les prix, c'est très clair, au XVIIIe siècle, à l'époque de Mariette, dans les années de sa vie, les prix des tableaux hollandais, pas Rembrandt seulement, mais je veux dire Gérard Doux, Teniers, pour parler d'un flamand, étaient considérables. Donc le marché aide d'ailleurs à ce goût, parce qu'à un certain moment, le marché a épuisé. Toutes les œuvres sont casées, si vous voulez. Il faut inventer quelque chose pour... L'évolution du goût, c'est une chose bien connue. La peinture française du XVIIIe siècle, elle était tombée dans un oubli total au XIXe siècle. Il a fallu attendre les Goncourt et d'autres, et bien d'autres, des collectionneurs surtout, pour que Chardin, Watteau, Boucher reviennent à la mode. Il a fallu du temps.
Alors, quels étaient les favoris de
Raphaël. Il aimait plus les Romains que les Vénitiens, c'est sûr. Mais ça, sa grande passion, mais c'est très banal. À l'époque, c'était Raphaël, les élèves de Raphaël. Il faut dire que, sans doute, il avait raison. Raphaël est peut-être quand même le plus grand dessinateur de tous les temps. Aujourd'hui, on hésite à le dire, mais ça reste vrai.
Pourquoi hésite-t-on ?
Parce que c'est un artiste tellement célèbre, il est un peu académique, on hésite un petit peu, et parce qu'on n'ose pas l'avouer.
On a peur de paraître conformiste en le disant,
voilà,
c'est ça
un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. Non, puis oui, mais oui, et si disons-le, Raphaël bien sûr, mais Léonard, qui n'était pas aussi connu que ne l'était Raphaël, est devenu... l'artiste le plus populaire. On va bien voir pour l'exposition sur Léonard au Louvre, ça va être effrayant.
Et vous, dans les œuvres présentées, quels sont vos coups de cœur dans les œuvres qui sont présentées au Louvre jusqu'au...
Moi, j'aime beaucoup son goût pour les Bolognais. Il avait une grande passion pour les Bolognais. Et donc les Carache et l'ensemble qu'il avait réuni pour la galerie Farnèse était extraordinaire. Et il aimait aussi les Bolognais moins connus, Guerchin bien sûr qui est très connu, mais des artistes, il avait ça, c'était au fond les artistes avec lesquels il se sentait le plus proche, à mon avis. Le Bologne était archi à la mode à l'époque, mais il a aussi aimé les autres écoles italiennes. Il a aimé le Nord, il a aimé... l'Italie, dans ce cas-là, enfin, l'Italie classique, c'était ce qu'il aimait. Et il avait raison, moi aussi, c'est ce que j'aime.
On sent même que parmi ce qu'il collectionne, il a un très très grand goût pour le portrait, d'après ce qu'on a pu voir, des portraits très choisis, très sélectionnés.
Oui, oui.
Et qui va aussi, ne veut pas s'empêcher aussi d'aller dans des scènes mythologiques, religieuses, là-bas. Le dessin d'histoire, oui, je dirais.
Vous avez raison. Aujourd'hui, quand on va au Louvre, on se rend bien compte que le public manque de base. Il est perdu devant les sujets religieux. Il ne connaît plus la Bible, il connaît encore moins la mythologie. Les tableaux, ils ne savent plus, le public a beaucoup de mal à les lire. Cette culture-là de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et de la mythologie, Ovide, etc., tout le monde l'avait au XVIIIe siècle, ou du moins Mariette l'avait, c'est sûr. Et pour eux, le sujet d'une œuvre ne comptait pas, au fond. C'était pas un sujet religieux, c'était pas une barrière. Et là, il y a eu incontestablement une régression. Et en effet, les Mariette mettaient sur le même plan, peut-être mettaient tout sur le même plan. Peut-être pas tout à fait pour le paysage, qui devait considérer quand même comme un genre mineur, mais pour les tableaux religieux, non. Et puis les dessins qui racontaient une histoire, ça lui plaisait. Il aimait bien les histoires que la mythologie s'est racontées. Non, non. Et il avait...
D'ailleurs, je crois qu'il, d'après ce que j'ai lu donc, dans votre ouvrage, il avait un goût bien particulier pour l'antique.
Oui, mais ça aussi, il est en une sorte... oui, il aimait le monde antique, c'est certain. Là, sur ce plan-là, si on veut parler en termes de modernité, il était évidemment un peu annonciateur au néoclassicisme qui va arriver très vite après sa mort. Oui. Très, très vite. Oui, oui, Bouchardon, oui, c'est une sorte de précurseur de, avec sa technique très finie, très précise, très minutieuse. Non, c'était les dessins qu'il aimait, c'était des dessins très finis. Enfin, voilà, c'est un homme assez passionnant. On ne sait pas encore tout sur lui, c'est certain. Ce qu'on peut espérer, c'est que grâce à ses ouvrages, qui sont des ouvrages quand même pesants, puisque les 4 volumes italiens pèsent presque 10 kilos, on peut espérer que grâce à ses ouvrages, que les dessins que nous n'avons pas retrouvés vont refaire surface. On y en a déjà qu'un ou deux qui sont réapparus.
Et alors, à combien évalue-t-on ceux qui sont encore dans la nature ?
Je dirais quand même presque 20, à mon avis plus de 20%, dans les 20-25% qui sont à retrouver.
De l'ordre de 2000 dessins.
Voilà. Mais il en réapparaît quelques-uns. On en a retrouvé déjà depuis. Pour les Français, on en a, il en est passé en vente assez régulièrement, des dessins Mariette que nous ne connaissions pas. Non, ce qu'il faut dire, c'est que très souvent nous connaissions les dessins, mais nous en avions perdu la trace. Alors, ils réapparaissent dans des ventes, des familles qui les conservaient. Mais aussi, il y en a qu'on peut espérer retrouver, qui sont cachés dans des greniers.
Et donc, c'est une personnalité donc, assez complète. Il est dessinateur, graveur, il est historien de l'art, il est aussi collectionneur. Est-ce que, très content de sa collection, ce que vous disiez, est-ce qu'il a mêlé tout ça pour lui-même faire un catalogue raisonné de sa collection ?
Ah, c'est sûr que l'œuvre de sa vie, ça a été sa collection. Tout a été mis au service de cette collection et de survivre... et qu'il voulait survivre par sa collection. Et d'ailleurs, il survit par sa collection. Puisque dès qu'on voit un petit thème, on sait que c'est lui. Dès qu'on voit un montage bleu, on sait que c'est lui. Donc, il a réussi. Il a réussi à passer à la postérité. Il y a beaucoup de collectionneurs qui n'ont pas de marque. C'est rare. Enfin, la majorité des collectionneurs d'aujourd'hui apposent sur un dessin leur cachet. C'est le cas, la collection de Louis-Antoine Prat qui a été exposée au Louvre. Il y a une marque, un petit P, qui n'est pas d'ailleurs sans vouloir imiter le petit thème de Mariette, mais enfin ça c'est une impertinence. Et non, les collectionneurs qui sont... Enfin un collectionneur, qu'est-ce que c'est ? C'est un créateur raté. S'ils étaient des vrais créateurs, ils peindraient, ils écriraient des poèmes. Donc là, c'est clair que c'était... Et alors ils veulent survivre, ces collectionneurs, par le biais de leur collection. Et comment survivre si, sur ces dessins qui vous appartiennent, vous n'imposez pas une marque ? Et donc, si vous voulez, la valorisation du dessin par ses montages, la marque, d'autres petites... tout cela, c'est une manière pour lui de dire, eh bien, écoutez, ça m'a appartenu, c'est de Rubens, mais c'est aussi de moi.
Oui, ces dessins lui survivent à travers ses collections.
D'autant que vous nous dites quelque chose de très surprenant, en tout cas pour aujourd'hui, c'est qu'il n'hésitait pas éventuellement les modifier.
Et oui, c'est, vous avez raison.
Les copier, enfin, ça semble incroyable.
Oui, oui. Non, c'était, il martyrisait un peu ses dessins. Il est martyrisé dans la mesure où il est retaillé, il est retouché, mais il faisait une chose encore plus difficile à faire dans un petit film qui est montré dans l'exposition du Louvre, à l'heure actuelle, on voit quelqu'un faire, mais naturellement...
sur une copie.
Oui, c'est-à-dire couper un dessin en deux. Mais alors, il ne s'agit pas de couper dans le sens plus facile, mais de le couper dans son épaisseur. Et lui, quand il avait un dessin double face, il aurait bien voulu en avoir deux. Donc, il avait mis au point un procédé qu'on appelle démariage. C'est un joli mot, un démariage qui consistait justement à couper le dessin dans sa partie la plus... Et on voit là une dame qui est restauratrice au Louvre en train de le faire avec un dessin qu'elle a fait elle-même, je crois, un dessin à 3, disons à 1 euro, peut-être même moins. Et on la voit faire et elle a fait, à la fin du démariage, il y a 2 dessins. Et naturellement, dans l'opération, ça peut rater. Et alors, ça devient des dessins abîmés. Et il y a toujours dans ce même petit film une feuille de Lanfranco où on voit bien qu'il a voulu démarier un dessin, il n'y est pas arrivé. Alors, les morceaux qui sont restés intacts, il les recompose pour faire un dessin complet, il les retouche. Et donc, voilà. Non, il a vis-à-vis du dessin une brutalité qui aujourd'hui serait considérée comme criminelle. Ah oui, non, non.
Oui, ce serait sacrilège, mais.
Donc, sacrilège.
On voit à quel point, au-delà de son sceau
oui.
de M dans son cachet, il veut vraiment imprimer sa marque à sa collection.
Les démariages, ça, on a toujours essayé d'en faire, mais c'est plus facile, évidemment, quand la feuille de papier est épaisse. Plus la feuille de papier est épaisse, plus c'est facile de la trancher, c'est clair. Mais donc, il l'a essayé.
Et des agrandissements aussi.
Oui, il les agrandit. Non, non, il y a des formats, etc. Non, non, il est... Non, non, il est... oui, oui. Le dessin, c'est un dessin de je ne sais pas quel artiste, mais c'est aussi un dessin de Mariette.
Alors, dans cet engouement pour le dessin, quel statut avait à l'époque le dessin ? Car c'est toujours un statut un peu...
Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que les lettres de noblesse du dessin sont récentes. Quand je suis entré au Louvre, le cabinet des dessins, le département des arts graphiques aujourd'hui, faisait partie du département des peintures. Il est le cabinet des dessins du Louvre, la plus grande collection de dessins du monde, de loin, n'a son statut autonome que depuis, je ne sais plus quelle année, mais bien après mon entrée au Louvre. Bien après mon entrée au Louvre. Et en fait, ce statut du dessin, c'est plus compliqué que ça a l'air. Parce que d'un côté, c'est vrai que l'autonomie du dessin est essentielle. Le dessin est une œuvre d'art à part entière. Ça, c'est bien clair. Les cabinets de dessin sont... Mais d'autre part, moi, je suis de ceux qui trouve que la séparation dessin-tableau est trop forte. Je trouve que les spécialistes de dessin, aujourd'hui, ne connaissent que le dessin, ne connaissent pas la peinture, que les spécialistes de tableau, ceux qui font ces fameux catalogues raisonnés, qui sont, à mon avis, à la base de toute de l'histoire de l'art, les spécialistes de peinture ne connaissent pas les dessins. Et j'ai essayé modestement, dans ma petite carrière d'historien de l'art, de travailler sur les deux domaines. Je pense quand même que la liaison tableau-dessin est quelque chose d'important. Donc, d'un côté, le dessin veut son autonomie, son indépendance. Il y a des ventes de dessins. Il y en avait à Londres, là, c'est hier et avant-hier. Il y a des ventes de tableaux. Les œuvres ne sont pas mélangées. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Il y a des spécialistes de dessin, il y a des spécialistes de tableaux. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ces spécialistes ne sont pas suffisamment attentifs aux liens qui rapprochent les deux disciplines. Mais enfin, bon, c'est comme ça.
Voilà, c'est aussi sans cesse. Autonomie, interdisciplinarité, transdisciplinarité, oui. On y reviendra, je pense.
Oui, oui.
Mais d'ailleurs, collectionnait-il la peinture quand il retrouvait des sujets?
Oui, il avait quelques tableaux. Il avait, parce que c'est un artiste qui est mon grand homme, si j'ose dire, il avait un poussin. Il avait un vrai poussin que j'ai vu hier à la National Gallery de Londres. Il décrit d'ailleurs des choses qui sont assez amusantes sur Poussin. C'était l'époque où, en effet, les Anglais étaient fous de Poussin. Et il se plaint, il dit quelque part, je suis sûr que mon Poussin terminera en Angleterre. Et il dit, il avait raison. Un joli tableau de jeunesse, une nourriture de Jupiter, un joli tableau sur lequel on sait tout, sur la provenance, etc. Non, non, d'ailleurs, Poussin, c'était un artiste pour qui il avait comme... tous les historiens d'art de tous les siècles, de tous les pays, une grande passion. Poussin, c'était un artiste incontournable pour lui et pour toute la, pour tout le 18, enfin de tous les temps.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la dimension historien d'art et la façon dont il procédait, puis de cette œuvre qui s'appelle l'Abécédario.
L'Abécédario. Alors, si vous voulez, il possédait un livre du père Orlandi qui s'appelait l'Abécédario, qui est une sorte de dictionnaire. Des artistes. Et cet abécédario, il l'a annoté. C'est-à-dire que quand dans l'abécédario, il y avait l'avis de je ne sais pas quel artiste, il le complétait, il ajoutait des remarques personnelles. Et l'abécédario, qui a été publié au XIXe siècle, est en effet la publication de ces notes de Mariette sur les artistes qui font partie du dictionnaire du père Orlandi. C'est un ouvrage très intéressant où il parle de temps en temps de ses dessins, il parle beaucoup de gravures, mais aussi il se prononce sur des artistes où il dit il est parfois sévère sur un artiste, parfois au contraire, il le couvre d'éloges. Non, 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 vous avez raison, c'est un historien d'art. C'est un historien d'art.
À une époque où la notion n'existe pas.
À une époque où la notion n'existe pas vraiment. Non, c'est vrai, c'est juste. Elle n'existe pas vraiment. Enfin, il faisait de l'histoire de l'art sans savoir que c'était de l'histoire de l'art. Vasari, c'est un historien d'art. Et ça se passe bien avant Mariette, bien sûr. Vasari, d'ailleurs, c'est, si vous voulez, quand on parle des dieux de l'histoire du dessin, Vasari et Mariette sont toujours mis en parallèle. Vasari trouvait le temps de peindre. Il consacrait autant, plus de temps à sa peinture et à ses dessins qu'à sa collection. Mais c'est un collectionneur aussi.
Tout comme Vasari, d'ailleurs, qui lui aussi était un grand artiste.
Mais c'est un grand, grand artiste. Et, oui, bien sûr, c'est un très grand artiste. C'est un très grand artiste, un très grand dessinateur, d'ailleurs. Oui, il est plus créatif, plus créateur que ne l'est Mariette, c'est sûr. Et la reconstitution de la collection Vasari, c'est la tâche d'une nouvelle génération d'historiens d'art. Elle n'est pas vraiment faite. On a essayé l'équivalence sur Vasari de ce que j'ai tenté de faire avec mes collaborateurs, collaboratrices plutôt, sur Vasari, sur Mariette, reste à faire pour Vasari. Je pense d'ailleurs que cette idée de reconstituer des collections, de s'intéresser aux collectionneurs, c'est une nouvelle discipline dans le domaine de l'histoire de l'art. On ne s'intéressait pas beaucoup à cela. La redécouverte de l'importance des collectionneurs est quelque chose de récente. On s'intéressait aux artistes, et c'est normal, c'est eux les vrais créateurs. Et on s'intéressait aux artistes, mais on ne s'intéressait pas tellement à ceux qui ont permis à l'œuvre de ces artistes de venir jusqu'à nous. C'est-à-dire à ceux qui les ont collectionnés, à ceux qui ont voulu reconstituer leurs œuvres, etc. etc. Non, non. C'est le champ de l'histoire de l'art s'est considérablement accru et le collectionnisme est devenu une des branches de l'histoire de l'art à la mode.
Donc on va avoir de nouveaux catalogues raisonnés. D'ailleurs, moi, stupidement, moi qui ne suis pas du
Sérail.
De l'art, du Sérail, je pensais que les catalogues raisonnés, c'était forcément des monographies.
Oui, les catalogues raisonnés, c'est très important. Ça permet en effet de comprendre mieux l'évolution d'un artiste, de séparer le grain de l'ivraie. Ils sont un peu moins à la mode qu'ils ne l'étaient. Moi, j'ai beaucoup aimé en faire. J'en ai fait plusieurs et j'ai beaucoup aimé les faire. Je suis en train d'en faire un très difficile, mais et j'estime que c'est le meilleur service à rendre à un artiste, c'est d'essayer de comprendre l'évolution de son
art. C'est un catalogue raisonné de collection.
Voilà, exactement. Exactement.
Montre bien l'extension de l'intérêt.
Oui, oui.
D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez aussi des écoles espagnoles.
Oui, il avait quelques dessins espagnols, c'est sûr. Il considérait Naples comme espagnol, ce qui était vrai politiquement à l'époque, puisque le vice-roi d'Espagne était roi de Naples en même temps. Et donc, Ribera est naturellement. Voilà.
Considéré
comme italien, exactement. Mais enfin, les Espagnols sont dans le catalogue. Il en avait quelques-uns. Et pas très. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans la collection.
Qui d'ailleurs, d'après ce que je sais, oui. Était au 18e, assez déconsidéré. On n'aimait pas trop cette patronne.
Absolument. On n'aimait pas du tout l'Espagne. Faisait exception quand même dès le 18e siècle, Velázquez.
Velázquez.
Oui, ça c'était quand même dans l'oubli total où était tombée la peinture espagnole, totale, et dans le mépris qu'on avait pour l'art espagnol, Velázquez surnageait.
J'imagine que ça illustre effectivement donc, d'avoir collectionné aussi les dessins espagnols, ce désir encyclopédique.
Voilà,
finalement,
absolument. Il voulait un peu de tout. Voilà. Il pouvait pas si on voulait raconter l'histoire du dessin, on pouvait pas négliger un pays.
Et est-ce qu'il a réussi finalement ? Est-ce que son ouvrage est complet ou est-ce qu'il y a des lacunes ?
Oh, il y a des lacunes énormes. Il a réussi sur un point, c'est que un dessin vaut 10, un dessin qui vient de chez Mariette vaut 20. Par la simple fait que, bien sûr, les chiffres sont complètement n'ont pas d'intérêt, mais une provenance Mariette pour une salle de vente, pour un cabinet de dessin, c'est un plus qui compte. Donc il a réussi. Il a réussi en faisant que son choix ait une répercussion sur le prix des œuvres. À cet égard, il a réussi.
Certains ont dû en bénéficier parce qu'il écrivait aussi « Je voudrais mettre dans ma collection des dessins de maîtres de second ordre ».
Oui, c'est toujours la même idée que celle que vous évoquiez tout à l'heure, d'une histoire du dessin, et avec les grands noms. Et les... Oui, oui, non, non. Il avait une autre... Il aimait bien là aussi les dessins retouchés par un autre artiste. Il aimait beaucoup les dessins anciens que Rubens avait retouchés. Rubens retouchait les dessins de sa collection. Et là, par exemple, Mariette aimait beaucoup les dessins retouchés par Rubens. Il faut dire que c'est très bien d'avoir un dessin...
Quand c'est retouché par Rubens, c'est d'accord.
Oui,
mais de qui est le dessin ? Est-ce qu'il est de celui que, est-ce qu'il est de Rubens ou est-ce qu'il est de l'artiste que de la, que Rubens retouche? Non, je vous pose la question parce que où est-ce qu'il faut le mettre ce dessin, dans les volumes italiens ou dans les volumes que nous allons, que nous préparons en ce moment sur consacré au nordique?
Oui, c'est, ça dépend si ça a été fait, j'imagine, pour juste permettre à l'œuvre d'être plus lisible ou si on a complètement réinterprété.
Oui, oui. Alors pour l'instant, on a un peu triché. On les a mis avec les Italiens, mais quand on met dans Rubens, bien sûr, on fera renvoi au dessin retouché. On fera renvoi.
Puisque nous étions sur le chapitre Histoire de l'art, au détour d'un des paragraphes, vous émettez l'idée que Mariette aurait été un précurseur de l'histoire de l'art à la française, par opposition à l'histoire de l'art à l'allemande. Est-ce que vous pouvez nous éclairer
Ça, je ne me souviens pas avoir écrit ça. Mais
je peux rappeler. Si. À la française, c'est la connaissorship.
Oui.
Et à l'allemande, plus portée vers l'herméneutique et la philosophie.
Oui, on peut dire ça, oui. Ben, c'est-à-dire que, oui, c'est plus... Oui, je vois ce que vous voulez. Non, si vous voulez, il y a plusieurs histoires de l'art. Il y a l'histoire de l'art de l'attribution. Ça, c'est un domaine où les Italiens ont été très forts. Surtout les Italiens, notamment. Et puis, il y a une histoire de l'art plus théorique. Disons, si on devait faire une bonne séparation, on pourrait dire qu'il y a une histoire de l'art des musées et une histoire de l'art de l'université. Les musées sont plus proches des œuvres. L'université est plus proche des théories,
des courants.
C'est cela. Et en fait, c'est pas un vrai fossé, mais dans la mesure où il y a beaucoup d'universitaires qui travaillent pour les musées et l'inverse. Mais en gros, c'est quand même deux histoires de l'art. Et Mariette, évidemment, il est plus du côté des musées que de l'université. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Oui. Ceci dit, ceux qui sont intéressés à Mariette par le passé, ils sont de tout pays. Il y a des Italiens, il y a des... Mariette a passionné beaucoup d'historiens d'art, évidemment. Comme il est lui-même français, que la majorité de ses dessins, comme un grand nombre de ses dessins sont au Louvre, les Français se sont intéressés à Mariette plus que... Mais en ce moment, par exemple, il y a deux ou trois spécialistes qui sont de langue anglaise. De Mariette.
D'ailleurs, j'imagine qu'il attribuait donc lui-même certaines œuvres, enfin, attributions, etc. Je pense que d'ailleurs, les attributions qui ont été faites à cette époque-là sont indissociables du contexte, du goût de l'époque. Est-ce qu'il s'est beaucoup trompé, finalement ?
Oui, il s'est pas mal trompé. Il faut dire reconnaître que les instruments dont disposait l'historien d'art, il n'avait pas beaucoup. Aujourd'hui, nous avons les photos. Sans photos, c'est quand même difficile de faire l'histoire de l'art. Il s'est, si vous voulez, pour l'époque, peu trompé. Il s'est beaucoup trompé, vu de nos jours. Mais pour l'époque, au contraire, il a fait des attributions lumineuses. Oui. Et qui tente de justifier, mais il se trompe parce que les moyens de travail sont à l'époque très limités. Si vous voulez, il y avait les gravures. Ça, c'est certain que les gravures leur servaient beaucoup. Ils avaient une connaissance de la gravure que nous n'avons plus. C'était au fond les photos de l'époque. Oui. Sauf que quand même, les photos, il y en a beaucoup plus que des gravures. Mais en dehors de la gravure, il n'y avait pas beaucoup de moyens de distinguer les mains. On a le nombre d'artistes qu'on connaît maintenant, par rapport au nombre d'artistes que connaissait Mariette, est bien plus considérable. On sait que quand on parle de Rubens, on parle de Rubens au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a 10 élèves qu'on sait distinguer de Rubens. Et donc, si vous voulez... Il a fait un travail extraordinaire pour l'époque, mais il s'est quand même trompé. Ce qui, pour nous, quand nous écrivons les volumes sur les dessins français et sur les dessins italiens, nous oblige à consulter une énorme littérature.
Oui, ça doit être un travail énorme.
Parce que si vous voulez... Mais oui, il faut tout vérifier. Et puis, en plus, il faut prendre parti. Parce que sur Raphaël, par exemple, ou sur bien d'autres artistes, les spécialistes ne s'accordent pas. Et donc on attend de nous, d'une part, que nous rassemblions tout ce qui a été écrit sur un dessin, ou l'essentiel de ce qui a été écrit sur un dessin, et que nous-mêmes prenions position sur une des attributions proposées.
Donc vous avez été décisionnaire.
Ben oui, souvent. Et alors, si vous voulez, pour les Français, ça va très bien, puisque c'est un peu mon domaine. Pour les Italiens, c'est devenu presque impossible, parce que le domaine de l'art italien est tellement considérable qu'aujourd'hui, on ne peut plus être spécialiste de l'art italien. On est spécialiste de Milan, ou on est spécialiste de Venise, ou on est spécialiste du XVIIe siècle à Brescia. La spécialisation est devenue considérable. Sur l'Italie, prendre parti, c'est pas toujours facile, parce que mon avis ne compte pas, dans la mesure où je suis pas un spécialiste de tel artiste ou de telle école. Et ça va être encore plus difficile pour nous, pour les volumes nordiques, parce que c'est un domaine que je connais pas. Les Flamands, les Allemands et les Hollandais. Alors là, il va falloir beaucoup se fier à ce que les autres ont dit et essayer dans quelques cas. Mais on nous demande en fait surtout de résumer l'état de la question, si vous voulez. Et de bien savoir qui a proposé telle attribution pour tel dessin. Et de bien savoir distinguer les propositions qu'on peut considérer comme venant de grands attributeurs, de gens ayant de grands yeux. Puisque c'est l'œil, après tout, qui est le critère essentiel d'une attribution, et ceux qui, au contraire, sont moins, dont la vie est moins pertinent.
D'ailleurs, vous avez déjà commencé la partie donc, oui, sur
oui,
le nordique.
Oui, oui. Enfin, voilà. Oui, absolument, absolument. Non, il faut terminer.
La publication de ces catalogues raisonnés de collections étaient les premiers objectifs que s'était fixé l'association Variète pour la promotion du dessin français. Quels sont les... La promotion du dessin français, c'est plus vaste. J'aimerais que Mariette, en quelque sorte, le véhicule d'un nouvel engouement.
Absolument.
Quelles sont les prochaines étapes?
Mais c'est les Nordiques. Les Nordiques qui
mais promotion du dessin français.
Ah oui. Après, une fois que Mariette est publiée, moi, je serai mort. Donc, c'est réglé. De ce côté-là, c'est réglé. Non, mais moi, je veux. Ces volumes-là comptent beaucoup pour moi, évidemment, me comptent aussi beaucoup pour moi le catalogue raisonné des tableaux de Poussin, puisque j'ai déjà fait le catalogue raisonné des dessins de Poussin, et ça, j'espère y arriver. Et puis, il y a ce grand projet qui, en ce moment, est en train de prendre corps, de ce musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, qui est en train de démarrer.
Alors, donnez-nous quelques nouvelles. Nous ne courons pas après les scoops à Canal Académie, mais nous ne sommes pas contre non plus, en recueillir quelques-uns.
Bah, si vous voulez, je donnerai mes collections personnelles, livres, documentation, dessins, tableaux à ce futur musée, donc, qui est confié maintenant, il y a un directeur qui s'en occupera, qui s'appelle Alexandre Gadi, dont on a pas mal parlé parce qu'il a beaucoup polémiqué sur l'incendie de Notre-Dame. C'est lui qui est le patron. Et c'est un projet qui est mené par M. Devedjian, qui est le président du Conseil des Hauts-de-Seine, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art. Fait partie du Conseil des musées et qui tient à mener à bien ce projet, qui sera donc un musée consacré d'une part au Grand Siècle, avec des œuvres de ma collection sans doute, mais de bien d'autres origines. Et là, on commence à voir qui... Ben, je prends un exemple tout simple, l'aimé de Notre-Dame, dont tout le monde parle, ce fameux mets qui a orné la cathédrale de Notre-Dame. Certains sont exposés au Louvre, certains sont exposés à Arras, mais il y en a une dizaine qui sont roulés dans les réserves d'Arras et du Louvre. Et pour l'instant, il n'est pas question de les présenter, parce que la restauration de chacun de ces mets, c'est 50 000, 60 000 euros. Et d'autre part, ils sont très grands. Où les présenter? Le Louvre, il n'y a pas la place. Il n'y a plus la place. À Arras non plus. Donc l'idée là, c'est un exemple entre bien d'autres, c'est de les restaurer, de les présenter. Ceux qui ne sont en ce moment roulés dans les réserves de ces deux musées, de les présenter à Saint-Cloud. Donc vous voyez, ça c'est un grand projet dont j'espère... C'est énorme, oui, c'est un grand, grand problème. Il y a bien d'autres idées. Et il ne pourrait être mené à bien ce projet que si... M. Devedjian d'un côté, Alexandre Gadi d'autre part, s'y consacre à plein temps. Et ça peut être un magnifique résultat, parce qu'un musée du Grand Siècle, ce sera un musée du Grand Siècle, mais ce sera aussi un musée de collectionneurs. C'est-à-dire qu'il y aura ma collection, bien sûr, mais il y aura d'autres collectionneurs qui voudront, eux aussi, présenter leurs œuvres, les donner. Pour faire de Saint-Cloud, le parc de Saint-Cloud, de ces bâtiments qui sont au bord de Seine, un lieu, un des grands lieux de Parisiens.
Je le dis à la place d'Alix parce qu'elle n'osera peut-être pas le dire, mais avant l'émission, elle me disait que ce sera vraiment formidable car pour l'instant, il n'y a pas d'institution dédiée au grand siècle.
C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un musée de la Renaissance, il y a un musée du Moyen-Âge, le musée de Cluny, et bien sûr, le Louvre consacre pas mal de ses salles au grand siècle, Versailles naturellement encore plus, mais un musée consacré au XVIIe français, avec des orientations différentes de celles des institutions déjà existantes. Il ne s'agit pas de refaire le Louvre, de refaire Versailles, mais ça n'existe pas, et j'espère que Alexandre Gady, avec, grâce à, au soutien de, du président de Vétjean, mènera bien pour quelqu'un. Les locaux sont très beaux, c'est très grand. Sont des bâtiments de caserne. Il n'y a rien à garder à l'intérieur, mais ça permettra véritablement de montrer des œuvres qui ne sont pas montrées ailleurs. Je parle de l'exemple des mais il y en a bien d'autres. Bien d'autres.
En attendant cette ouverture, je crois que nous pouvons inviter nos auditeurs à se rendre quand même au Louvre
bien sûr,
pour admirer
l'exposition.
L'exposition sur les dessins italiens de la collection Mariette. Je rappelle que c'est visible jusqu'au 30 septembre.
C'est gratuit.
De surcroît.
Oui. Enfin, c'est gratuit, il faut entrer au Louvre d'abord. Mais une fois au Louvre, c'est gratuit.
Et qu'il y a des événements programmés.
Oui.
Qu'il faut en profiter, mais pour ça, je ne vais pas allonger notre propos. Il faut se rendre sur le site internet du Louvre. Enfin, pour les vrais passionnés, les éditions qui ont publié vos catalogues raisonnés approchant les 10 kilos sont les éditions Somogy. Ce sont des ouvrages de toute beauté.
Que vous pouvez vous procurer à la librairie du Louvre. Et qui se charge en plus, puisque vous parliez de leur poids, de les expédier aux acquéreurs gratuitement. Enfin, gratuitement, je ne sais rien. De les expédier aux acquéreurs.
C'est déjà très bien.
C'est déjà pas mal.
Mais ce sont vraiment des ouvrages de toute beauté pour le cadeau idéal pour toute personne passionnée par le dessin.
Absolument.
Grâce à leur variété, car c'est sympathique d'avoir des livres d'art consacrés à un artiste, mais quand on a la chance d'avoir un éventail complet, c'est un plaisir pour l'œil.
Mais la production des ouvrages, c'est une production très belle. Enfin, je veux dire, la qualité du papier, la qualité des reproductions, c'est des très très beaux livres. Comment on n'en fera plus pas, hein. C'est des livres très chers à faire. Heureusement qu'il y a des mécènes pour nous aider.
Eh bien, monsieur, merci. Merci à eux. Merci à vous d'avoir fait ce travail de réhabilitation ou de découverte et d'extension du bloc de la part d'Humanité qui connaît Mariette. Et merci d'avoir accepté aussi notre invitation à une prochaine fois, j'espère. Et merci, Alix,
merci
de nous avoir épaulé dans cette émission.